Bonjour tout le monde. Un tout petit peu de retard aujourd'hui. L'émission spectaculaire commence bien ce mercredi 6 avril 2016. Il est 14h05 et nous sommes un peu à la bourre. Christophe Rollin au micro, émission numéro 95 je crois aujourd'hui. Isa est bien dans le studio ainsi que Gérald et même nous avons deux invités aujourd'hui. Quelle grande chance. Denis Lavant de retour depuis le mois de janvier, déjà passé à ce moment-là. Et puis surtout Jean-Paul Muel. Les deux vont parler d'une même chose, la pièce dans laquelle il joue actuellement, Les Faux-Borées de Scapin, une pièce de Molière de 1662, donné actuellement au Théâtre des Célestins jusqu'à ce samedi 9 avril. Voilà, ce sont les deux comédiens qui ont, peut-on dire, les rôles principaux, puisque Denis Lavant incarne Scapin et Jean-Paul Muel est Argante, l'un des pères de la pièce. Bref, nous avons toute l'émission pour en parler ensemble, comme d'habitude. On va commencer par de la musique italienne, puisque, premier mot de la pièce, avant même qu'elle commence, la scène est à Naples. Donc on va commencer avec un peu de musique italienne. En plus, hommage, Gérald nous l'indiquera, hommage à Gian Maria Testa, décédé dernièrement. Et puis voilà, nous écoutons donc ce premier titre. Et puis ensuite, nous discuterons comme d'habitude, comme tous les mercredis. Vous nous écoutez d'ailleurs jusqu'à 15h. Et vous nous trouvez sur le 102.2 de la bande FM à Lyon, ou bien sur internet radiocanu.org.
Lo servo di embafare in da una piazza pregava a Cristo in croce e ci dicia Cristo lo padre mia, madre pazza mi tratto come un cane e mi esavia sapiglio tutto con la sua manazza manca la vita mia dice che è mia distruggere Gesù sta mala razza distruggere Gesù falla per mia falla per mia.
E Cristo ci ha risponde dalla croce, picché si sostizzate li dovrazza, chi vuole la giustizia si la forza, nessuno ormai più la farà pittia,
en fait, je disais n'importe quoi, Gérald. Ce n'était pas un titre de Gian Maria Testa.
C'était... Non, c'était un grand classique napolitain de l'ensemble Ezezi, de l'album Diavole a Quattro du Gruppo Operaio Ezezi. C'était Malarazza, mauvaise race.
Bon.
Tu te lamentes le refrain, mais prends un bâton et serre les dents.
Bonjour Gérald. Ouais.
Bonjour.
Puisque nous commençons, il faut savoir chaque fois commencer de cette manière-là. Oui, chers auditeurs, auditrices. Salut Isa, comment vas-tu?
Salut, ça va très bien.
Bon, et nous recevons deux grands invités. C'est un retour pour vous, Denis Lavant, bonjour.
Bonjour.
Et pour vous, Jean-Paul Muel, c'est une première. Alors, je vais renvoyer les auditeurs. Hein. J'ai même pas retrouvé le numéro de l'émission, Gérald. C'était quoi? C'était tout début janvier. C'était l'émission, je suppose, peut-être 85, quelque chose comme ça. Auditeurs, je vous renvoie à cette émission pour avoir une présentation de Denis Lavant, pour avoir son parcours un peu. C'était un peu de cirque, non? Enfin, il y avait des différentes...
Il y avait...
Vous ne savez plus ce que vous aviez dit.
Un peu un résumé des épisodes précédents. Quoi.
Avec les feuilles Wikipédia à la pile, mais une heure n'a pas suffi. Il aurait fallu deux, en fait.
En revanche, nous pouvons faire maintenant une présentation de Jean-Paul Muel, qui en plus est un comédien, une figure locale, alors que vous, Denis Lavant, vous êtes un produit importé. Hein.
Oui, moi je suis de Paris.
Oh là là, de Paris.
Bon, je suis parisien.
On accepte. Oui, vous aussi, Jean-Paul, un peu?
Ah bah complètement parisien, j'habite pas Lyon, mais je suis né à Lyon, voilà.
Alors que pourriez-vous dire pour vous présenter un peu, puisque justement vous n'êtes pas natif de Paris, mais pas très loin de Lyon, hein, je crois, c'est ça?
Oui, Tassin-la-Demi-Lune. Comme je dis toujours, ça s'appelle la demi-lune depuis que j'en suis parti. Avant, c'était Tassin-la-Lune.
C'était la lune pleine. Et la place Satonnet, nous nous trouvons sur la rue...
Bah, et quand j'étais gamin, j'allais à l'école de la Salle, donc je descendais à la gare Saint-Paul et je traversais la place Satonnet pour monter à l'école de la Salle, qui est dans les pentes de la Croix-Rousse. Donc venir chez vous, ça m'a... comme une Madeleine de Proust, c'est rigolo. Voilà.
Oui, la rue du Sergent Blandan, nous sommes au numéro 24, n'est pas très loin de cette place Satonnet. Jean-Paul, je vous en prie quand même un peu... davantage de mots tout de même pour vous présenter, puisque c'est quand même le rituel de l'émission. Ah non, nous sommes d'une paresse éhontée.
Alors qu'est-ce que vous voulez savoir?
Ah ben tout, enfin disons tout, surtout cette grande chose, votre rencontre avec le théâtre, puisque vous êtes quand même un grand comédien, vous avez beaucoup joué, vous nous disiez, quand on s'est vu la semaine dernière, davantage peut-être de théâtre que de cinéma.
Oh ben, c'est à peu près pareil. Denis Lavant lui a fait des rôles importants au cinéma, moi je suis un spécialiste des secondes, des deuxièmes ou des troisièmes rôles. Mais j'ai dû jouer pas loin de 60-70 pièces, j'ai fait 50 films et à peu près autant de télé, donc voilà. Donc,
les auditeurs vous auront peut-être vu dans un rôle glorieux, hein, on en parlait encore il y a quelques instants, dimanche soir, c'était sur TF1, et oui, c'était à 20h50 ou 55, je sais pas à quelle heure ça commence, c'était ce grand film de 1992, je crois, Les Visiteurs, c'était le premier volet, vous avez également sévi dans le deuxième, hein, vous dites.
J'ai fait des choses beaucoup plus intellectuelles. Oui.
C'est bien d'avoir le prime time sur TF1 aussi.
Ah bah c'est très bien, oui.
Grand rôle de composition.
Moi qui connais un peu le parcours de Jean-Paul Muel.
Ah bon ?
Je veux dire qu'il a un parcours très atypique pour un comédien. Il a commencé à Lyon dans une école de comptables où il faisait partie d'une troupe amateur. Une troupe amateur, mais qui avait beaucoup d'ampleur à l'époque, c'est-à-dire presque semi-professionnel. C'est-à-dire, il jouait énormément. Je sais pas ce qu'il jouait, je pourrais pas vous dire les détails.
Antigone Danouille, les oiseaux de lune de Marcel Aimé, etc. Voilà.
Et à la suite de quoi, il est vraiment entré de plein pied dans le théâtre par une voie particulière, c'est-à-dire avec le Grand Magic Circus de Jérôme Savary. Voilà, donc c'est le début.
C'est-à-dire, je faisais des études d'expert comptable à Lyon et j'ai fini à poil dans les spectacles de Savary. Non, mais j'ai eu la chance de faire des très belles rencontres dans ma vie, dont la dernière auquel je tiens beaucoup, qui est avec un garçon qui s'appelle Pierre Guillois, qui est metteur en scène et auteur, avec qui j'ai fait trois spectacles, dont un qui est passé au Théâtre de la Croix-Rousse il y a 2-3 ans, qui s'appelait Le Gros, la Vache et le Ménat, qui est un spectacle très irrévérencieux, très scandaleux. Et je ne sais pas si on y arrivera, mais on prépare avec lui un nouveau spectacle que je pense la Croix-Rousse prendra dans 2-3 ans, qui va être le premier opéra porno, et dont le titre est « Gode-moi fillette ». Voilà.
C'est la dernière période.
À cette époque-là, j'aurais 75 balais, donc après, je pourrais m'arrêter. Voilà. Mon goût de la provocation a été jusqu'au bout.
Vous l'avez évoqué à l'instant, voilà, vous avez donné votre âge. Moi, j'ai indiqué sur le blog que cet âge n'apparaît pas du tout. Il y a une énergie dans cette pièce, puisqu'on ne l'a peut-être pas assez dit, Gérald, hein, j'ai lancé en tout début d'émission. Vous êtes présents tous les deux, Denis et Jean-Paul, pour parler de cette pièce, Les Faux-Bris de Scapin, qui est donnée au Théâtre des Célestins sur, moi j'adore toujours ça, toujours cela, sur une belle durée. Vous avez commencé, je crois, mercredi dernier, le 30 mars, et ça se termine ce samedi 9 avril. Et en plus, il y a même des scolaires.
Oh, ça, oui.
Il y a même des matinées en journée, ce qui est assez compliqué, parce que concrètement, ça signifie que vous devez jouer deux fois. Vous devez c'est jouer ça. À quoi 14h, c'est ça
scolaire, mais de jouer deux fois par jour, c'est pas.
14h et.
Bah, ça fait 13 représentations en 8 jours, je crois, ce qui fait que c'est quand même un peu beaucoup.
C'est de la surexploitation. Enfin, n'en parlons pas. Si ou parlons-en, je sais pas.
Non, parlons plutôt, avant d'évoquer, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour parler plus précisément de cette pièce avec ses rôles que vous avez, et puis je ne sais pas, des propos que vous pourriez tenir sur votre interprétation du personnage ou sur les propos, hein, je crois qu'on se disait ça à l'instant, sur la note d'intention de Marc Paquin. Peut-être qu'on pourrait encore parler de ces acteurs que vous êtes. Par exemple, je crois que vous avez un peu d'actualité, Denis Lavant. Vous êtes encore sur les écrans lyonnais avec un film qui se termine et un autre qui commence.
Exact.
Il y a un beau nom pour le deuxième film qui commence, un nom argentin, hein, c'est ça.
Ouais, Eva no duerme. Bon. Mais qu'ils ont traduit Eva ne dort pas, ça sonne un peu moins bien, quoi. C'est moins exotique. Et c'est un film d'un jeune réalisateur argentin, mais qui vit à Paris, Pablo Aguero, et qui raconte l'itinéraire post-mortem du corps d'Eva Perón. Mmh. Et c'est un film que moi j'ai découvert, quand on était en tournée, ils l'ont passé à Albi. Dans un festival sur les films latinos. Mmh. Et moi, c'est un film que je trouve très intelligent et très bien. Pas parce que je joue dedans, mais c'est un film en trois parties, hein, parce que c'est un petit peu. Il y a trois comédiens qui prennent le relais du corps d'Eva Perón. Un type qui est chargé de l'embaumer. Quand le régime tombe, un type qui est chargé des services spéciaux, le colonel Koenig, qui est chargé de récupérer le corps, de le nettoyer et tout, et de le livrer à un représentant du Vatican, parce que le corps a été conservé par le Vatican pendant toutes l'éclipse de Perón. Mmh. Et puis le dictateur qui est enlevé par des révolutionnaires péronistes et qui veulent l'échanger contre le corps d'Eva Perón, de savoir où est passé le corps. Donc c'est une sorte de triptyque, et tout ça qui est mêlé avec des documents d'époque.
C'est pas romancé, hein, c'est la réalité historique.
C'est une réalité historique, c'est forcément un peu romancé, il y a un côté fiction quand même, dans la manière dont c'est joué, dans les personnages. Mais c'est tout ça est entrecoupé de vraiment documents historiques qui donnent un peu l'ampleur du phénomène Perón, Eva Perón, qui est vraiment une passionnariat, quoi. C'est devenu une femme d'un charisme terrible. Et donc, on connaît pas tellement ça, finalement, en France. Moi, j'ai vraiment découvert
un abordant très célèbre, qui a eu beaucoup de succès sur Eva Perón.
Peut-être.
Ah, ça d'ailleurs. Avec une actrice, vous prenez la suite de Madonna, qui incarnait Evita, il s'appelait Evita.
Une comédie musicale.
Exactement. Jean-Paul Biel a tout à fait raison.
Il y a
adapté.
Il y a le Mathieu Scopi qui en a parlé dans une pièce.
Avec Antonio Banderas.
Moi, j'ai vraiment découvert à travers ce scénario et ce film. Et tout ça est pris, la narration de tout, est pris presque en contrepoint comment il s'appelle ? Aïe, j'ai retrouvé. Gael García Valdés.
García Bernal.
Bernal. Oh là là. Ça y est, je mélange les noms, j'ai des conneries, excusez-moi.
Ça c'est dans la pièce.
Ouais, ça c'est dans la pièce.
On se frappe.
Ouais. Je me corrige. Et voilà, comme je vous avais dit, et qui joue le dictateur qui succède à Perón. Et donc qui est dans une haine et un mépris total pour Eva Perón. Mmh. Donc c'est très intéressant parce qu'il a mis le personnage qui est contre, qui fait la narration du film, qui tient le fil narratif du film, et en même temps, donc moi je trouve ça très intelligent parce que ça donne pas, il n'y a pas de parti pris. Il constate ce phénomène. Mmh. Il constate la succession des dictatures qui n'en finit pas. Le cycle de la vengeance. Et ça, c'est assez très juste.
Et vous jouez le rôle du Thanatopracteur qui prépare.
Non, moi je joue le rôle de l'officier des services spéciaux.
Ah, ouais. Mieux.
Je sais pas. Les deux sont bien.
Alors, ce film est un film qui vient de sortir ce mercredi 6 avril sur les écrans français. Et pourquoi je fais cette distinction ? Parce qu'il y a un autre film qui a été. Oui, exactement. Il y a un film, Gérald, qui a été un peu plus compliqué.
Hier,
voilà. Il est sorti il y a trois semaines.
Donc,
je crois
Céline, de Clown, il n'est allé que depuis une ou deux semaines. Emmanuel Bourdieu. C'est un huis clos exceptionnel avec un trio d'acteurs phénoménaux, dont Denis Lavant ici présent.
Géraldine Payas et Philippe Desmeules.
Voilà, excellent.
Qui
vraiment,
a comme c'est... canadien. Et ça relate une petite partie, excusez-moi, de la vie de Céline, c'est-à-dire après la libération, quand il est parti en exil au Danemark.
48.
Et qui, il est en correspondance avec un universitaire juif américain, qui s'appelle Milton Indus, qui est un inconditionnel de ses écrits, qui veut pas vraiment voir quand même qu'il a écrit des pamphlets antisémites aussi, et qui débarque au Danemark, pour avec quand même l'idée derrière la tête de revenir chez lui avec un bouquin sur Céline qu'il aura écrit, et c'est son cauchemar, quoi. Ouais. Ça, deux clowns pour une catastrophe.
Et c'est très bien traité, complexe, super dialogue, bien filmé, une facture assez classique qui m'a fait penser à d'autres films historiques, par exemple Séraphine de Senlis dans La Facture années 40, les costumes, le décor, les ambiances.
Je crois que c'était pas mal. Le film Gérald s'appelle Séraphine tout court, me semble-t-il, hein, oui. Avec Yolande Moreau.
Ah, oui. Voilà. C'est le même genre de film et avec un contenu très, très, très intéressant. Bon. Et très bien interprété.
Bon, et est-ce qu'on a fait le tour de ces portraits?
On ira à Scapin peut-être.
Ben, ou alors peut-être, Jean-Paul, est-ce que vous avez des projets cinématographiques à venir aussi, ou d'autres
non,
choses?
Moi, je suis ravi que Denis tourne autant. Moi, je suis un petit peu triste parce que j'ai beaucoup tourné, mais depuis quelques années, je tourne plus. Mais enfin, bon.
Ah, mais c'est votre faute. Vous ne faites que refuser les scénarios,
non,
je suppose.
Non. Non, mais c'est pas. En plus de ça, c'est vrai que chaque année, je joue une ou deux pièces. Bon, ça prend beaucoup de temps. Je suis très gâté par le théâtre et par les rôles. Donc, bon, bah,
pourquoi s'ils
veulent. Si, non, mais c'est pas ça. Mais si jamais ils me reveulent un jour, ils m'appelleront, puis c'est tout.
Tout le monde n'est pas hyper actif.
Pas pleurer, voilà.
Non, l'avantage du cinéma, c'est quand une fois que c'est fait, il y a plus rien à faire, quoi.
Bah, l'avantage du cinéma,
ça sort,
oui,
c'est vrai. On a complètement oublié, il y avait des films, moi j'avais oublié.
Le film suit sa vie, quoi.
Bah non, et puis ça, on se trouve sur les écrans, alors que, et puis voilà, c'est fait, quoi. Alors qu'au théâtre, faut y aller tous les soirs.
Ça serait l'intérêt du cinéma, ça. Une fois que c'est en boîte, c'est en boîte.
C'est formidable. Bah oui.
Et ça vit sa vie.
Pour ça, ouais.
Si lorsqu'on faisait du théâtre, lorsqu'on avait fini de répéter, bah, c'était terminé.
Le théâtre filmé, alors, c'est pas intéressant, ça?
Non, pas toujours.
Ça, pas du tout.
Faut que ça soit vraiment retravaillé, quoi.
Denis Lavant, projet dramatique à venir, projet de théâtre à venir. Dramatique, c'est l'adjectif, mais, hein, pour théâtre.
Il y a des trucs comme ça qui planent. Que j'en saisis quelques-uns, quoi, des quelques fils.
Ah, mais on en avait parlé en janvier, non? Vous souhaitiez, je crois qu'on l'avait évoqué en janvier, non? Vous souhaitiez que quelque chose se fasse, mais c'était pas encore.
Ah oui, non, mais il y a des moments, il y a des évidences. Puis il y a des moments, c'est totalement confus. Et surtout, comme le théâtre, pour moi, quand même, il a à voir avec l'époque qu'on vit, ou son quotidien, son présent, que ça soit le présent émotionnel ou le présent historique. Et des fois, c'est ça. Il y a des moments où je peux être dans une perplexité totale, dire mais pourquoi je vais faire ça. Et c'est pas que je manque de propositions, je touche du bois, Dieu merci. Mais des fois on dit mais c'est vers où je vais. Et là, ça s'est défini en fait, brusquement, parce que j'ai réalisé que c'était là, que c'était cette pièce-là qu'il fallait que je fasse. La prochaine, c'est un projet avec Bernard Sobel, avec qui j'ai déjà travaillé à plusieurs reprises quand on était à Gennevilliers. On avait joué Ubu Roi,
ah
notamment.
Ben voilà, c'est ça, nous en parlions. Ubu qui va être donné au Théâtre National Populaire dans quelques jours.
C'est le meilleur compagnonnage qu'on ait fait, je trouve, Ubu Roi. C'était vraiment...
Denis a joué Ubu, moi j'ai joué la mère Ubu.
Ah, mais pas dans la même pièce, malheureusement. C'est dommage.
C'est intéressant.
J'aurais bien aimé en mère Ubu, toi. et il a un projet vraiment épatant d'une pièce d'un auteur très méconnu qui s'appelle Grab, qui est un auteur allemand du début du 19e siècle, et qui a écrit une pièce énorme qui s'appelle Le Duc de Gotland.
Oui, on se l'était dit, je crois, en janvier. Et donc,
j'en avais parlé déjà.
Et alors, ça se précise, là, oui,
c'est... Ah, ça se précise, ça va se faire.
Il y a des dates, oui.
Ouais, ouais. Et pas sinon, encore, dans les trucs enthousiasmants, on ne sait jamais quand est-ce que ça va se faire exactement, parce que c'est plus récent. Et pour dire que là aussi, brusquement, là c'est une évidence. Il y a des trucs, on a forcément envie d'y aller. Il y a des choses, parce que brusquement, c'est quelque chose de conséquent. Travailler avec Sobel, c'est forcément d'entrer dans un truc où il y a un propos intellectuel, un avis sur social, politique, et poétique,
ce qu'on peut
aussi du reste.
Un message.
Voilà. Non, pas un message.
Non.
Parce que un message,
d'accord, tant mieux.
Pas.
Exactement.
Mais il y a un point de vue. Il y a quelque chose à partager par rapport à ce qu'on vit aussi, et sans forcément donner de solution, parce que message, c'est un peu top, quoi. Mais il y a, j'ai reçu récemment un projet de Brigitte Fontaine,
que j'avais déjà rencontré, j'avais fait un travail sur un de ses textes à la radio, qui a une pièce complètement foutraque et libre, et en même temps qui résonne très fortement. Je trouve par rapport à aujourd'hui, qui raconte vraiment, il y a vraiment un propos aussi qui m'importe. Il s'appelle Montana Split. Et c'est une chose qui se passe dans un bled paumé, dans un café, la veille de Noël, un rassemblement de personnes, de deux couples, des gens qui boivent et qui attendent quelqu'un. Et voilà.
C'est un roman ou une pièce ? C'est écrit comme une pièce. C'est écrit par Brigitte Fontaine.
Oui.
Vous étiez fait pour vous rencontrer avec Brigitte Fontaine.
Ah ouais, ouais, mais moi c'est un genre de truc.
Je suis assez surprise que ça soit pas arrivé avant. En fait.
Très enthousiasmant. Bon, c'est déjà rencontré. Parce que j'avais joué un de ses textes à la radio avec Anouk Grimbert, puis avec Areski qui faisait la musique.
Ah voilà, son compagnon sera-t-il de la partie pour ce Montana Split aussi ?
Absolument. Oui. Ouais, 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 ouais. Bon. Moi, je dois faire le barman. C'est un rôle qui me convient parfaitement.
Que de projets.
Ce que je vous propose, c'est que d'écouter Antoine Glattard, qui est chef d'orchestre, assistant actuellement à l'Orchestre National de Lyon, qui était présent dernièrement pour à chaque fois que Leonard Slatkin, le chef principal, le dirige. Eh bien, Antoine Glattard, assistant, est également présent. Et puis surtout, c'est qu'il y a une période de vacances scolaires qui arrive, auditeurs. Hein, on ne va pas vous le cacher, Gérald. On va d'ailleurs faire relâche les mercredis 13 avril et 20 avril. Point d'émission spectaculaire. Peut-être le panorama hebdo dépassera-t-il. Et donc Antoine Glattard mènera les jeunes, l'Académie des jeunes musiciens de l'Orchestre de Lyon dans un concert le dimanche 23 avril. Et il sera même de retour à la mi-mai pour un projet particulier, Peter Pan. Donc pour écouter un truc très rapide, à la fois Antoine Glattard va se présenter et parler de ses spectacles. Et bien pour écouter tout cela, nous retrouvons une interview que j'ai réalisée la semaine dernière. Et puis ensuite on enchaînera, Gérald, tu vas me passer le CD, on mettra directement le... Tu me parlais de Gian Maria Testa, décédé il y a quelques temps.
Un petit poème de Céline, un tout... Très court.
Bah, on mettra ça, on mettra également cela. Donc voilà, on va enchaîner. 14h27, Antoine Glattard tout d'abord, peut-être un peu de Céline ensuite, et puis surtout pour terminer, Gian Maria Testa. Et après, nous retrouvons plus précisément la pièce Les Fourberies de Scapin, qui est mise en scène actuellement au Théâtre des Célestins. C'est jusqu'à ce samedi 9 avril. C'est à 20h en soirée, et c'est très très bien. N'en déplaise à certains, hein, Gérald, on en reparlera juste après.
Bonjour, donc je m'appelle Antoine Glattard, j'ai grandi dans une famille de musiciens. Mon père est altiste, il était alto solo du National de France, et ma mère claveciniste. Donc je suis venu à la musique assez tôt, et très vite j'ai eu envie de devenir chef d'orchestre. Et pour ce, je suis parti à Bruxelles faire mes études, et qui a débouché sur un travail à l'Opéra de Bruxelles, à la Monnaie, avant de venir ici à Lyon. Et donc à Lyon, je suis arrivé en faisant un concours, pour avoir le poste de chef résident de l'Orchestre de Lyon, que j'ai remporté en décembre 2014, et pour prendre mes fonctions en septembre dernier. Et dans le cadre de mon poste de chef résident, je suis à la fois assistant de Leonard Slatkin, lors de ses semaines de direction, et je suis à la fois directeur musical de l'Orchestre des Jeunes, ainsi que de l'Académie des Juniors. Donc c'est ce qui me concerne prochainement, car je vais diriger l'Orchestre des Juniors le 23 avril, ici à l'Auditorium. Donc c'est un travail particulier, car ce sont des jeunes âgés, grosso modo, de 10 à 14 ans. Donc c'est un travail essentiellement pédagogique, mais néanmoins passionnant, avec lequel j'ai beaucoup de plaisir à m'employer. Et ensuite, j'aurai le plaisir de diriger Peter Pan mi-mai, avec l'Orchestre de Lyon. Donc un programme également axé pédagogique, car ouvert aux enfants. C'est un conte musical écrit par Olivier Pénard, qui sera pas mis en scène, mais il y aura une sorte de mise en espace avec un magicien et un récitant. Donc on aura l'occasion de faire 4 concerts cette semaine-là, donc je me réjouis de ce prochain engagement avec l'Orchestre de Lyon. Et donc ce 23 avril, avec les juniors, on a un peu cousu un programme fait de toutes pièces, car il faut tenir compte de leur capacité de concentration. Donc on a un peu de tout, on a des extraits de Peer Gynt, des suites de Grieg, ça c'est un classique du genre avec les jeunes orchestres, mais également du Borodine. On aura des extraits des danses polovtiennes, on aura la danse macabre de Saint-Saëns, quoi d'autre, nous avons également des danses norvégiennes de Grieg également, du Sibelius, enfin un peu de tout, voilà. C'est un programme très varié avec, je pense, 7 ou 8 compositeurs différents, donc avec des pièces courtes, un programme, je pense, assez riche. Et en mai, donc, voilà, je réserve un peu la surprise, mais ça sera un programme assez original, car donc c'est une pièce d'Olivier Pénard. Ça a été créé il y a 2 ans, je crois. Donc c'est une musique assez moderne, mais néanmoins très accessible. Et donc nous serons 3 sur scène, avec un récitant qui sera Sébastien Dutrieux et une personne qui va également faire des effets magiques. Alors là-dessus, je ne peux pas vous en dire plus car je ne suis pas au courant moi-même de ce qui va se passer, mais ça risque d'être très sympa, voilà, mise en espace, pour habiller la musique, pour vraiment raconter l'histoire de Peter Pan, avec l'orchestre au centre et un récitant et un magicien qui va nous accompagner.
Antonin Artaud.
Les asiles d'aliénés sont des réceptacles de magie noire, conscient et prémédité. Et ce n'est pas seulement que les médecins favorisent la magie.
Bon alors, hein, Gérald, il m'a bien dit Antonin Artaud, ce n'est pas Antonin Artaud. Ouais. On réécoute bien Céline.
Louis-Ferdinand Céline.
Je te trouverai charogne, un vilain soir. Je te ferai dans les mires 2 grands trous noirs. Ton âme de vache dans la transe peut prendre à du chaud. Tu verras cette belle assistance. Tu verras voir comment que l'on danse au grand cimetière des bons enfants. Mais voici tant d'enfants. Et son patron, voici Clémentine et le vaillant Toto. Faut-il dire à ses potes que la fête est venue? Au diable ta sorte, car gonfle m'importe, au malfrat décroche que le vent emporte, feuille morte, souci. Depuis des pays que tu râles, que t'es cocu, que je suis ton voyou responsable, que t'en peux plus. Va prendre le pays, l'occasion unique de respirer. Viens voir avec moi si ça pique aux grandes osselettes du Saint-Mandé. Viens voir avec moi si ça pique aux grandes osselettes du Saint-Mandé. Mais voici tant d'enfants. Et son petit Léon, voici Clémentine et le vaillant Toto. Faut-il dire à ses potes que la fête est finie? Au diable ta sorte, cartouf m'apporte, au malfrat décroche que le vent emporte, feuille morte, souci. C'est pas des nouvelles que t'en croques, que t'es pourri, que les bourmanies te suffoquent par ta bélie. C'est comme ça qu'a tombé Mimi dans le grand panier. Tu vas voir ce joli coup de fil que je vais tourner dans l'araignée. Mais voici ton enfance et son petit Léo. Voici Clémentine et le vaillant Toto. Faut-il dire à ses potes que la fête est finie? Au diable ta sorte, car d'autres m'importent, au malfrat tes crosses que le vent emporte, tourbillons et soucis. Et voilà.
Chapeau.
Eh bien voilà.
Eh ben, c'était Denis Lavant qui réinterprétait son propre rôle de Céline que j'ai vu hier au cinéma, où il y a une très très belle scène où il chante cette chanson, mais cette fois accompagné au piano. Il l'a fait en direct.
Alors que là, c'était l'accordéon, c'est ça?
Voilà,
c'est
version originale. Non, personne.
Voilà, c'était Céline, évidemment. Extrait du disque Voix de Poète 2, Olivier Germain, Thomas, Radio France, France Culture. Règlement, document, Bibliothèque nationale de France, département de la phonothèque.
Maintenant, il est temps à 14h34 d'entrer dans ce que je nommerais le vif du sujet. Nous arrêtons Louis-Ferdinand Destouches, nous arrêtons également le maréchal des logis, c'est quoi, Gibbon, c'est ça, voilà. Nous sommes maintenant en train de parler, nous allons parler de cette pièce, Les Fourberies de Scapin, pièce de Jean-Baptiste Poquelin, Molière, 1662. Molière décédé en 1664, je crois bien, cela fait donc 2 ans avant sa mort.
Avant-dernière pièce.
Ouais, avant-dernière pièce. Donc cette pièce est donnée actuellement au Célestin. Il y a encore plusieurs dates. Exactement, il meurt sur scène presque dans l'acte 3. Il se met à tousser. C'est les deux, composer et jouer. Et donc là, les Fourberies de Scapin, vous pouvez encore la voir ce soir, mercredi 6 avril. Demain également, jeudi 7. Mais vous pourriez même, à 14h peut-être, vous glisser parmi les scolaires. 14h30. Ensuite, ce sera vendredi et puis samedi, la dernière. Samedi d'ailleurs, c'est peut-être un peu plus tôt. Je crois que non. C'est toujours 20h. C'est seulement. Voilà, et 16h le dimanche.
Spectacle dure 2h.
Ouais, c'est ça.
Sans entracte.
Ouais, il manquerait plus que ça.
Argante, Scapin, vous qui êtes présent, je vous en prie, que pourrez-vous dire pour présenter cette pièce, pour présenter vos personnages, pour parler du propos de Marc Paquet, hein, parce que c'est ça, Jean-Paul Muel, je crois que vous avez totalement adhéré à cette vue de Marc Paquet, hein, son point de vue sur la pièce. Non, je vous taquine, je vous en prie. Jean-Paul, à vous si vous le souhaitez. Non, Argante, bien Denis avant.
C'est rigolo parce que quand on répète une pièce, les metteurs en scène ne nous racontent jamais ce qu'ils écrivent dans les programmes, en fin de compte.
Ce sont des propos qu'ils tiennent, quand même.
C'est-à-dire que
on vous mène par le bout du nez. Pour
on répète, on cherche, on trouve pas, il dit d'accord,
si,
pas d'accord.
Quand même,
hein. Oui, mais ce que je veux dire,
c'est
quelque part ce qu'il écrit et la synthèse des 2 mois de travail qu'on a fait pour arriver à ça. Donc voilà.
Un travail collectif aussi.
Et puis, moi, j'ai jamais le sens de la réflexion, j'ai le sens d'acter, de faire.
Eh bien, alors, ce sens-là, d'acter, de faire, pour ce personnage d'Argante, comment le caractériseriez-vous? Qu'est-ce que vous pourriez en dire? Je vous en prie. J'en bredouille.
De toute façon, les deux vieux sont deux avares, donc ils vont se faire gruger. Donc c'est des stéréotypes assez, dès qu'on parle d'argent,
Argante, est-ce une forme, le mot argante, est-ce que c'est le nom argante, est-ce que c'est un peu proche d'argent, puisque l'autre personnage est Géronte. Ouais, pour le coup, dans les deux, argante et Géronte. Dans les sonorités, on retrouve un peu une idée d'argent ou de...
on trouve l'argon, l'huile d'argon.
Oui.
Quand même matière première assez précieuse, c'est rare et assez cher.
Un peu de luxe, oui.
N'est-ce pas ?
C'est intéressant parce qu'à travers, mine de rien, on est en train un peu d'évoquer la pièce, puisqu'il y a donc deux personnages, Argante et Géronte, qui sont donc les vieux, les ladres, hein,
oui,
qualifiés, je crois, Zerbinette.
Les
pères. Et puis à côté de ça, il y a.
Tyrannique.
Il y a donc les fils.
Les pères qui ont arrangé des mariages finalement, et tout ça, alors que les jeunes gens ont préféré trouver des jeunes filles ailleurs.
Mais alors, comment s'en sortir pour les jeunes gens ?
Que les jeunes gens vont faire appel à Scapin pour gruger les deux vieux, leur piquer leur pognon et qu'ils arrivent à leur but. Voilà.
Et donc c'est vous, Scapin, cet être consolatif, hein, je crois, c'est ça, acte 2, scène...
Qui prétend, ouais.
Acte 1, scène 3 ou 4, vous prétendez être consolatif et le personnage ne l'est pas,
vous n'êtes pas. Consolatif, c'est mignon. Quoi. Il en est réduit à être consolatif. Parce qu'au départ, moi, ce qui m'intéresse dans le personnage, et c'est comme ça que j'ai tout de suite perçu ou imaginé quand Marc Paquin il m'en a parlé,
le metteur en scène de la pièce,
le metteur en scène peut-être un an en amont, quoi.
Oui, parce que cette pièce tourne depuis quelque temps tout de même.
Non, peu de temps, mais il m'en a parlé presque un an avant que ça se fasse,
avant
la saison d'avant,
avant qu'on répète.
J'étais au Québec en train de jouer Andromaque, justement, un autre classique, et il me dit Scapin, et moi j'y pensais pas du tout. Peut-être plus jeune, j'aurais pensé à Scapin, à Molière. J'ai très peu joué Molière, du reste. Et là, il me dit Scapin, et je lui dis, ah ouais. Et je lui dis, c'est un truc que je peux faire, maintenant, à mon âge,
mais
55.
Mais oui, parce que ça marche, parce que Scapin n'est pas un jeune homme. Scapin, il a un passé de repris de justesse.
Et j'ai exactement, je l'ai visualisé dans cette posture-là, le type qui est rangé des voitures, qui est comme ça, qui est en pré-retraite de fourberie, on pourrait dire, et donc qui est assis sur une bite d'amarrage sur le port, et comme ça, on va dire, je veux plus rien faire. Foutez-moi la paix, venez pas m'emmerder, j'ai roulé ma bosse et tout. Et c'est vraiment la posture, une sorte d'inertie de départ du personnage. Et en même temps, il se remet en route, sollicité par les jeunes gens, par la promesse d'une nouvelle génération, de quelque chose qui soit un peu moins cintré, un peu moins con que des anciens, quoi, un peu moins dans le profit, tu vois, moins con, et donc il croit brusquement à ça. Il est appelé par cette, ces jeunes amoureux à se mettre à leur service. Et du coup, il part d'un truc comme ça, un peu prostré, et puis il va déployer une énergie considérable pour, mais jusqu'à presque aller dans un truc presque suicidaire. Tiens, la dernière démarche qu'il fait vis-à-vis pour se venger de Géronte, c'est presque de se saborder lui-même.
Ah, Sylvestre le lui dit effectivement aussi.
Oui, absolument.
Et même après,
il y a quelque chose de désespéré de jusqu'au bout de truc au finish quoi. Voilà, donc ça. Du coup, moi qui suis plutôt flemmard, je me suis abordé ça en me disant oui, ça va être bien, je vais pouvoir le jouer calmement. C'est ce que je me dis tout le temps. Et puis, je me suis retrouvé en face de Jean-Paul Muel, qui était dans une sorte de chose démesurée.
Exactement.
Et dit, ah oui, ok, on le joue comme ça.
Bon, comment d'accord. caractériser la chose? Je l'ai retrouvé le mot. Parce que deux charmantes actrices, il faudrait quand même mentionner.
Deux charmantes actrices, effectivement.
Il faut le dire.
C'est genre de rester tranquille.
Il faut le dire, Jean-Paul. Vous en rajoutez. Il y a un truc que vous créez, ce personnage qui crée des. Ah, non, le texte n'écrit pas les là que vous faites. Ça n'est pas écrit. Ce n'est pas la vérité. Néanmoins, c'est excellent. Molière aurait dû l'écrire.
Ce que je veux dire, c'est que un texte, c'est fait pour être mâché, pour être sorti, pour être tout ça. Il y a des « en plus », mais il n'y a pas de mots en plus.
Entendu,
y a pas,
ça, c'est évident.
Il y a des mots en plus que quand on a le dos tourné.
Si, ça déborde un peu en ce moment. C'est pas que de moi. Mais on a tendance à rajouter un peu des choses.
Oui.
C'est un peu ça se débride un
oui,
peu.
Oui, parce que enfin, moi qui pense connaître le texte...
Mais ceci dit, ce qui est assez exact, c'est que quand même les rôles des deux vieux, si je puis dire, excusez-moi le terme, d'Argante et de Géronte, au départ, malgré un caractère qui apparaissait plus dans le théâtre de Molière à cette époque-là, ça a été traditionnellement des rôles qui portaient encore le masque, qui sont dans la tradition du pantalon de la Commedia dell'arte. Et c'est assez symptomatique justement dans cette pièce-là où en même temps qu'il y a une pièce de maturité de Molière et en même temps il va rechercher de remuement d'origine de la farce et de la comédie de l'art et de ce et qui est parfaitement présent dans le rythme de l'écriture, dans les dialogues, dans les effets quoi.
Bah,
très énergique, très dynamique.
Et, comme il n'y a pas de masque dans cette production, il y a en plus c'est la langue, voilà.
Mais il y a des sacs.
J'ai créé mon masque.
Coup de bâton, il y a des sacs, il y a toutes les échelles. Il y a un décor assez minimaliste, très très bien fait d'ailleurs.
Bah,
une petite cabane de pêcheurs, un petit peu qui sert de.
Moi, j'aime beaucoup la production parce que je trouve qu'il y a des éclairages absolument.
Oui, c'est un beau décor,
magnifique,
très efficace. Et l'arrière scène, une belle toile peinte. Aussi. Marine, c'est très belle, beaux éclairages qui mettent en valeur.
C'est le choix de Paquin de faire la maison de Scapin,
voilà.
Qui est le lieu de passage de tout le monde en fait.
Qui est un peu
ça valorise tous les déplacements, tous les costumes, les jeux d'acteurs
sur le port, comme ça, et tout le monde passe devant la maison. Voilà.
Il y a l'arrière-fond aussi qui est assez présent.
Et est-ce que ça peut vraiment être une idée intéressante et importante pour Molière, et même peut-être, enfin, j'allais dire plutôt pour Marc Paquin, voire pour Molière, cette idée de jeunesse. J'ai cette réplique-là, je relis cela dans l'acte premier, la scène 2. Quand vous intervenez, quand vous apparaissez Scapin, disons Denis Lavant, vous avez cette phrase qui est « Je voudrais bien que l'on m'eût donné autrefois nos vieillards à duper. Je les aurais joués tout par-dessous la jambe et je n'étais pas plus grand que cela, que je me signalais déjà par 100 tours d'adresse jolie. » Est-ce qu'il n'y a pas une forme de nostalgie, de mélancolie, enfin du moins je mélange les deux idées alors que c'est pas exactement la même chose, mais pour vous Scapin, enfin disons pour ce Scapin que vous souhaitez jouer, une force disiez-vous inerte qui veut qu'on lui foute la paix, et bien finalement se remet dans le truc parce que il y a peut-être l'idée de retrouver un âge d'or, ou disons un âge d'or, retrouver une autre époque où Scapin retrouver une jeunesse, retrouver une fontaine de jouvence où il y a plus d'énergie, de façon quoi qu'il en soit, la pièce se mettant en marche, et vous, vous mettez sacrément en marche, hein. On voit encore un paquet d'entrechats, enfin du moins il y a
Après, ça me reproche un peu parce que je suis cuit, j'ai courbatures et tout.
Vous êtes percuit, il faut en passer par des bains pour vous en mettre.
C'est sûr.
Ou des
ça, ben, si vous voulez, moi j'ai approximativement l'âge de Molière quand il a créé Scapin. Donc je me rends compte, et encore peut-être que je suis moins usé que Molière à l'époque, parce qu'on va en vieillissait plus vite, on vivait moins longtemps. Mais je me rends compte que l'énergie que j'avais quand je faisais de la Commedia dell'arte, parce que j'ai commencé par ça. Pour moi, c'est il y a une cohérence là-dedans. J'ai vraiment commencé par le théâtre de foire, le théâtre de rue, le très tôt, les masques. J'ai fait Arlequin, j'ai fait Pulcinella, avec un gars qui s'appelle Carlo Bosso, qui a été mon principal maître. Et puis, je suis passé après par des rôles plus denses, plus humains, notamment avec le cinéma de Léos. Mmh. Et pour moi, il y a quelque chose qui se raccorde entre mes origines de d'histrion et puis de ce rôle de Scapin, qui est un personnage de maturité, justement, qui est pas le valet de comédie classique, l'Arlequin, ni de Marivaux, ni de n'importe où, ni de Goldoni, qui est vraiment un type, un personnage à part, une sorte de anti-héros presque. Mmh. Puis surtout qui a roulé sa bosse, qui a fait de la galère, qui a repris de justesse, comme vous disiez tout à l'heure.
Ce n'est pas de moi.
Qui est patiné par la vie. Pour moi, ça peut me faire penser à des images qui ont affleuré, c'est Chéri Bibi, par exemple. Vous voyez, de Gaston Leroux. Ce galérien fantasque, ou Jean Valjean aussi, ouais. Mais bon, c'est pas le même itinéraire, mais des types qui sont passés par la forge du bagne, etc. Et donc qui ont en même temps, qui sont aigris, qui ont une sorte d'âpreté par rapport aux autres, une sorte de misanthropie totale, et en même temps qui sont capables de s'émouvoir. C'est pas sans. Bah, souvent, je pense à Céline aussi. Parce que bon, des gens qui sont dans une lucidité de la vie, mais qui font ils s'isolent. Et puis à un moment donné, là, Scapin, c'est particulier. Il est capable de s'émouvoir pour et puis surtout d'avoir envie de foutre la raclée à la société aussi. Mmh. Tu vois, au capitalisme, à tous ces salopards. C'est une sorte de libertaire.
Avant la lettre.
Vous avez quand même dépassé, Denis Lavant, l'âge de Molière, puisque Molière naît en 1622, en 1662 pour la création de la pièce, il a 50 ans. Vous l'avez passé, donc heureusement. Il est mort en 73. Il meurt
pour le charisme, j'ai pensé à Affreux Salé Méchant, Mastroianni dans Affreux Salé Méchant. Le père de famille, le doyen, là, capable du pire comme du meilleur.
Ah oui, mais il y a un peu de ça, quoi. Il y a des trucs. Ça peut faire penser aussi à, de toute façon, à quelque chose d'italien, profondément italien, napolitain, qui a voulu Marc. Moi je pense à un personnage comme Toto aussi, vous voyez, qui est ce comique qui est un peu, il y a des pauvres gens, quoi, mais qui sont extrêmement vivants, en fait. Très vivaces.
Pendant les répétitions, Marc nous avait demandé de regarder aussi, de penser un peu au cinéma de Kusturica et de regarder, c'était quoi, Chat Noir, Chat Blanc.
Oui.
Enfin, qui est cette vie-là dans les rapports entre les acteurs sur le
plateau,
cette énergie comme ça, c'est-à-dire que moi, quand j'ai vu répéter le spectacle, là, parce que je trouve que tous les jeunes gens et jeunes filles qu'il y a dans le spectacle sont des acteurs de grande qualité, qui viennent tous du conservatoire, de l'école de Saint-Étienne, de Strasbourg, de ci, de là, ils viennent tous d'écoles comme ça, et j'ai beaucoup aimé le travail que leur a demandé Marc, qui est un travail très physique, où les gens se prennent, se jettent, se battent, et tout ça, c'est important de se toucher au théâtre, de se prendre, et tout ça. Et là, je trouve qu'ils le font formidablement
bien. Ça vient pas en contradiction avec la beauté du texte, et l'alexandrin, et la rime, et tout ça.
Ça commence dès le début, ça commence dès la scène 1. Monsieur Gérald, voyons. Mais non, Gérald, ça commence dès la scène 1, quand on voit Sylvestre et Sylvestre et Octave. Comment nommer ça? Ils se chamaillent, non? Oui, enfin, du moins, il y a un truc, ils se donnent des petits claps.
Oui, gamins.
Voilà, la guerre de gamins. Et après, ils se blottissent, je crois, l'un contre l'autre pour se mettre à chouiner. D'ailleurs, effectivement, Gérald, tu l'as dit.
C'est bien le mot.
Tu as dit, soulignons certains, peut-être, on peut peut-être, en nommer au moins quelques-uns, parce que moi, j'ai vraiment été sensible à, notamment, Bertrand Poncet dans le rôle de Sylvestre. Ce jeune homme qui n'arrête pas de courir, à qui vous lancez, Denis Lavant, Scapin, qui vous lancez, te voilà, gros, enfin, toi qui est comme gros comme père et mère, tu peux pas t'en sortir tout seul.
Gros comme père et mère, tu te seras trouvé dans ta tête, forgé dans ton esprit quelques ruses galantes.
Eh ben lui, gros comme père et mère, c'est un jeune homme, mais ça colle bien, ça colle bien. Il est plein d'énergie, il est plein de. Et d'ailleurs, c'est terrible, Argante. Jean-Paul, vous asseyez sur lui avec Daniel Martin à la fin dans l'acte 3.
C'est un de nos grands plaisirs.
Ouais, ben nommons Daniel Martin fait Géronte, mais alors ça, ce serait peut-être donc la classe. Enfin, vous êtes les patriarches. Et puis pour cette jeune génération, il y a donc Benjamin Jungers qui fait Octave, Lode Thierry. Lode Thierry, c'est un homme, c'est pour Karl, mais les jeunes filles, c'est Elisa. Elsa Gage, Zerbinette. Et puis, pour Hyacinthe, c'est Manon Raffaelli. Raffaelli, ça fait transition pour.
Et vous oubliez.
Oui, ah bah, je l'oublie plein.
Jeune homme.
J'oublie également. Oui, voilà. C'est ça, voilà, le dernier.
Bah oui.
J'oublie même Anne Fischer pour Nérine, mais bon, ça, c'est peut-être plutôt l'autre génération. Mais quand je vois le nom de Raffaelli, ça me fait penser. La scène est à Naples. La pièce commence par ces mots avant même que Octave commence à se plaindre, à dire ah, fâcheuse nouvelle pour un cœur amoureux, très bien, dures extrémités où je me vois réduit. Eh bien, avant que la scène commence, la scène est à Naples. On sent que c'est Naples, hein, on l'a dit avec cette petite cabane. Gérald, est-ce qu'on pourrait encore reparler un peu de la musique? Est-ce que, puisque nous tenons Denis et Jean-Paul, qui sont les comédiens,
Faut pas
un peu de musique,
et
il y a un paquet, d'ambiance. Vous fredonnez, il y a des paroles.
À installer l'ambiance.
Il y a des paroles pour les musiques, enfin, vous chantonnez.
Ah, on chante deux tarentelles. Oui.
Et il y a même Elvis Presley.
Il y a deux instruments de musique.
Oui, non, mais néon, pour rester dans cette atmosphère napolitaine. Puis Gérald, pour introduire le prochain titre, c'est Gian Maria Testa, on le met, c'est ça? On a dit. Donc, enfin, Naples, on le sent quand même, ce Naples, non? Il y a même des mouettes aussi, on les aperçoit.
Oui, des mouettes, il y a des chiens. C'est des chiens errants. Voilà.
Ça,
il y en a à Paris aussi des mouettes. Hein.
Ça vous plaît ces moments où vous mettez à chanter? Parce que vous le faites deux fois, hein, je crois. C'est fin de l'acte 2, me semble-t-il, et fin de l'acte 3 aussi. Vous mettez comme ça, chantez tous ensemble. Il y a Daniel Martin qui prend c'est une trompette, qu'il prend un corps.
Un tuba.
Et puis voilà.
Bandoneon et tambourin.
Et puis vous mettez comme ça à jouer ensemble.
Accordéon. Benjamin qui a un petit accordéon.
Moi, je vais évoquer avec vous le rapport à l'argent dans cette pièce parce que c'est quand même assez présent. Je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensiez du rapport à l'argent dans la pièce où on voit quand même que les deux vieux sont assez, avares, ils ont
pas forcément ouais. Avares, ils sont dans le commerce. C'est presque des clichés de la société actuelle, quoi. Mmh. Et l'argent, c'est fait pour le, ça doit circuler. C'est un moyen, quoi. C'est pas une fin en soi. Là, le truc, la nasse dans laquelle on est, c'est que la possession de l'argent, ça devient une fin en soi. C'est-à-dire tous les gens qui ont du pouvoir et qu'on trouve dans de la corruption ou dans des magouilles insanes pour accumuler des biens, moi c'est un truc contre nature, quoi. C'est vraiment une éthique qui est à l'envers, totalement à l'envers du bon sens humain.
Ok, merci.
Non, mais c'est quand même important, effectivement, cette question de l'argent.
C'est la politique de la pièce qui n'a pas vieilli, peut-être.
Non, il y a un vrai propos. Ça permet d'enchaîner sur une réplique que vous avez, une belle réplique. Je vous attendais un peu là-dessus, Denis Lavant, sur quand vous vendez justement à Argante. Pour le coup, j'emploie ce terme-là. Quand vous vendez à Argante, qu'il ne faut pas aller plaider en justice, mais qu'il faut plutôt donner de l'argent, les fameux 200 pistoles, les fameuses 200 pistoles, qu'il faut plutôt les lui donner à lui-même. Vous avez toute une tirade sur les problèmes de justice, sur toutes les personnes par lesquelles il faut passer. C'est stupéfiant. Les huissiers, vérifier tout ça, est-ce que ça a changé? Et même donc question peut-être plus politique, est-ce qu'il y a un propos politique dans cette pièce? Et est-ce que quand vous dites cela, vous reconnaissez qu'il y a quand même encore un truc, bien entendu me trompais, la pièce est écrite en fait en 1671, je ne sais pas pourquoi je disais 1662, 1671, ça fait un paquet d'années. Est-ce qu'il y a encore une actualité? Vous parliez tout à l'heure d'évidence, de pertinence, ou non, en fait c'est des vieux trucs datés.
Molière, il avait le même rapport aux gens de justice, qu'aux médecins, à toutes les gens
il me semble que dans la plupart des pièces de Molière, il y a quelque chose dans les caractères, l'étude de caractères de comportements humains et sociaux qui décrit, il y a quelque chose qui est encore
des invariants,
temps d'actualité
éternel,
qui sont à mon avis, comme il y a plusieurs pièces où il en parle, quand même dans le Misanthrope, il y a toujours des idées de procès qui affleurent, et dans Tartuffe aussi, il me semble. À mon avis, lui, il a dû avoir des sacrés démêlés avec la justice, et il sait de quoi il parle, quoi. Et à mon avis, moi, j'ai Dieu m'en préserve, j'ai pas vraiment jamais eu d'affaires avec la justice, mais à mon avis, c'est un truc.
Ou le fisc.
Un engrenage kafkaïen, quoi. C'est quelque chose. Déjà, on voit déjà pour le problème des intermittents, comment on est manipulé, quoi. Vous voyez, comme on essaye. On est pris dans une nasse où il y a des intérêts. On a beau être dans une démocratie, dans une république, il y a des choses qu'on ne contrôle absolument pas. Et donc, on se fait un peu engager dans un entonnoir, comme ça, où il y a une sorte de d'épuration par le vide. Et je parle notamment dans le métier artistique. Là, ce qu'ils sont en train de magouiller au niveau du statut d'intermittent, qui est quand même la sauvegarde de faire du travail de qualité et de pouvoir avoir un peu la latitude de faire mûrir des projets et de pas faire que du commerce, que pas être que dans le profit, de faire deux représentations par jour, par exemple, d'éviter ça. Et ben ce statut-là, on est en train de le ratiboiser complètement.
Ouais, c'est assez dur. Comment enchaîner? Moi, je reviens un peu à cette réplique. Et pour vous demander, Jean-Paul, qu'en pensez-vous quand il vous lance cela, Scapin? Mais pour plaider, il vous faudra de l'argent. Il vous en faudra pour l'exploit. Il vous en faudra pour le contrôle. Il vous en faudra pour la procuration, pour la présentation. Conseil, productions et journées de procureur. Il vous en faudra pour les consultations en plaidoirie des avocats, pour le droit de retirer le sac, pour les grosses d'écriture. Il vous en faudra pour le rapport des substituts, pour les épices de conclusion, pour l'enregistrement du greffier, façon d'appointement, sentences et arrêts, contrôle, signature, expédition de leurs clercs, sans parler de tous les présents qu'il faudra faire. Donner cet argent-là à cet homme-ci, voleur d'affaires, et vous répliquez, comment ? 200 pistoles ? Non, non. Et même peut-être en rajoutant, je ne paierai pas. Donc Isa a raison, il y a un truc avec l'argent. Moi, je voulais plutôt vous renvoyer sur autre chose, sur... Je dirais peut-être comme ça, de but en blanc, sur le sexe, la sexualité. Il y a une. C'est vous, Argante, qui avait ce geste sur le. Ouais, quand j'étais jeune, c'est vrai, je poussais la galanterie, mais je n'allais pas très loin, et vous renversez un peu de rhum, je crois, c'est ça, sur.
Non, bah, je. Oui,
enfin. Est-ce que. Oui, voilà.
De toute façon, je. De toute façon, j'ai essayé de mettre un peu de vulgarité dans le personnage.
Ah, et pourquoi? Et
je fais un bras d'honneur, je fais un doigt d'honneur, je
pour
fais
le rendre, si vous avez raison.
Une éjaculation précoce.
Pour le rendre
donc,
détestable qu'il l'est.
Non, parce que c'est quelqu'un qui est obscène avec l'argent,
oui,
comme
donc,
avec le reste.
Le rendre obscène.
Voilà, obscène.
Ça marche.
Il faut qu'on trouve un mot à dire parce qu'on arrive à la fin et là on n'aura même pas le temps d'écouter un peu de musique.
Ouais, j'avais encore une question pour vous, Denis Lavant. Vous avez fait pas mal de pièces. Je voulais savoir, est-ce que cette pièce fait partie des pièces qui vous a le plus marqué? Vous avez quand même joué dans pas mal de grandes pièces, Roméo et Juliette, Hamlet, encore beaucoup d'autres. Je voulais savoir si c'était l'une des pièces les plus marquantes.
En fait, c'est curieux parce que j'ai très peu joué Molière, en fait. C'est-à-dire des classiques français.
Ouais, vous avez plus joué à Shakespeare, effectivement.
J'ai beaucoup plus joué des adaptations de Shakespeare.
Ouais,
et curieusement, j'ai abordé ça assez confiant. Et en fait, c'est vraiment une pièce, un texte qui m'a donné du fil à retordre. Parce que finalement, Shakespeare, on a toujours affaire à une adaptation, une traduction qui est plus en langage moderne. Mmh. Et Dieu sait que j'ai joué des textes pas évidents, même des monologues comme récemment Elisabeth II de Thomas Bernhard. J'ai vraiment une partition de 2h30. Et ben là, la phrase, la prose de Molière et la manière de trouver comment métaboliser et rendre direct aujourd'hui, s'approprier un texte qui est un peu ancien. Mais quand même, qui est parfaitement compréhensible. Mais c'est un peu retors parce que, aussi bien, il y a des formulations dans la syntaxe de Molière qui sont complètement d'aujourd'hui,
actuelle,
qui sont droites, qui sont contemporaines. Autant, il y a brusquement des choses qui sont contournées, qui sont inversées, comme ça, qui sont deux styles de Molière. Mais à mon avis, ce qui m'intéresse, moi, c'est effectivement, là, ce qu'on arrive, après avoir joué pas mal, de s'approprier complètement le texte, de s'échanger naturellement, même dans cette forme-là, quoi que ça devienne vivace et direct. C'est ça l'enjeu. Mais disons que c'est... Moi, ce que j'en retiens, c'est que ça m'a donné du fil à retordre, et puis que je continue à avancer, quoi, à chercher aussi comment ça se joue, parce que il y a c'est particulier pour moi, c'est un peu chaque fois ça demeure un énigme d'énergie, de respiration, de en plus ça fait longtemps que j'ai pas joué des pièces avec beaucoup de personnages, donc où il y a de l'échange, c'est pas un monologue, et donc il y a quelque chose en plus pour moi dans Scapin que je découvre, qui est en fait presque, qui pourrait s'apparenter différemment, mais à Richard III, c'est une manière de s'adapter à chaque individu, de parler son langage. Il va pas être du tout avec Argan, Jean-Paul Muel, qu'il est avec Daniel Martin, avec Géronte, et avec chaque, et qu'il est encore d'une autre manière avec les jeunes amoureux ou avec Sylvestre, et il passe par plein de niveaux de rapport social et de rapport affectif. Et donc, ce personnage, il est très riche, quoi. Et pour moi, c'est une belle expérience.
La question est également valable pour vous, Jean-Paul Muel. Ce personnage qui, en plus, est un peu en retrait. Hein. Oui, voilà, il faut parler de Scapin. C'est Scapin qui est sur scène presque tout le temps, sauf la première scène.
Les histoires d'Argan.
Mais justement, pour vous, ce personnage ou ce texte, est-ce que ça a été également une expérience marquante, intéressante, décevante ou parce que décente, peut-être en termes, je sais pas, d'investissement ou en termes de retour critique, hein, Gérald. J'ai cru comprendre, je vais insister encore une fois là-dessus. C'est quand même terrible que des confrères de la presse lyonnaise n'aient pas saisi à quel point la presse était quand même bonne.
On lit pas la presse lyonnaise, ça nous intéresse pas, de toute façon. Non, bah, enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Vous, ça vous plaît ce rôle? Oui, c'est
non,
un rôle.
C'est marrant parce que Denis dit qu'il a très peu joué Molière. Moi, en fin de compte, c'est la troisième fois aussi que je joue du Molière. C'est toujours très surprenant. Et par goût, je préfère jouer des textes contemporains ou faire des spectacles qui s'apparentent aux musicals, etc., etc. Mais en même temps, ça me rend très heureux de faire ça, parce que c'est comme une expérience, comme quelque chose de différent. Voilà. Mais l'an dernier, je jouais Le Misanthrope, où je faisais Ronte. Ça fait 2 années Molière. Bon, ça va. Maintenant, il faudrait passer à autre chose.
Passons à autre chose pour terminer l'émission. Ouais. C'est compliqué, dit Philippe Catherine, sur la compilation des Arocs qui vient de sortir ce jour. C'est compliqué de boucler une fin d'émission. Oh là là, mon Dieu, il est déjà 15h.
On a raté l'hommage à John Maria Testa. On écoutera la semaine prochaine.
Non, dans 15 jours.
Tout rapport humain est compliqué. Même avec moi-même, j'ai des problèmes. Alors, comment voulez-vous qu'on n'ait pas de problème si avec nous-mêmes, on a déjà des problèmes? Ces problèmes ne sont jamais les mêmes.
Et voilà, les fins d'émission. Voilà. C'était intéressant pour vous.
C'était,
et ben voilà, c'était seulement une mise en bouche. Si vous souhaitez en savoir plus sur Philippe Catherine, eh bien mettez la main sur ce numéro des Inrecuptibles. J'ai pas le numéro, c'est combien le numéro 1600, je ne sais plus combien, sorti ce mercredi 6 avril. Et si vous souhaitez en savoir davantage sur la pièce, eh bien quoi de mieux que non pas écouter. Si vous pouvez réécouter l'émission, le podcast est toujours disponible, mais allez voir Denis Lavant et Jean-Paul Muel qui incarne magistralement jusqu'à ce samedi 9 avril. C'est toujours le problème, ce n'est pas de la flatterie. Non, la pièce est vraiment bonne, hein. C'est la pièce de Molière. Au lieu de la lire, puisque Gérald n'est pas en alexandrin, allez donc la voir sur la scène des Célestins jusqu'au samedi 9 avril. Allez aussi à l'Auditorium, il y a un très bon concert de musique française ce samedi, et puis il y a tout un tas de choses. Restez à l'écoute des programmes de Radio Canu. Blues et Canu à venir tout de suite. Le Son Bâtard à 17h. On n'arrête pas le temps à 16h. Son Bâtard à 17h. Non, j'inverse tout. Bref, restez à l'écoute, vous verrez de quoi il est question. Canu à 19h. Bref, et voilà, nous retrouvons d'ici 2 semaines, le mercredi 27 avril. Vous verrez de quoi il sera question. Pascal Blues et Canus, c'est à toi la place. Salut tout le monde, ciao.